Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Allez, c'est tout en direct. Vous êtes la priorité, chers auditeurs et auditrices. Vous prenez la parole dès maintenant au 3210, standard accessible. Vous allez cliquer sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On se penche tous ensemble et avec Lila Lebas, la présidente de l'UNEF, sur le gros débat du jour, gros sujet du jour. Donc, l'annonce par le gouvernement ce matin d'une évolution de notre université avec un plan d'1 milliard d'euros. Sur 5 ans, la réforme d'un vrai système à bout de souffle. Une petite question avant d'écouter les auditeurs et auditrices pour Lila Lebas. Le Premier ministre a confirmé la fin du tirage au sort pour l'entrée dans les filières les plus demandées dès la prochaine rentrée. Lila Lebas, est-ce que ça vous en félicitez ?
Oui, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, on ne pouvait pas accepter que des jeunes soient tirés au sort à l'entrée de l'université et surtout que 4000 jeunes, à la fin du mois d'octobre, se retrouvent sur le carreau, comme ça a été cette année, sans aucune proposition d'inscription à l'université.
Alors Lila Lebas, on va écouter les auditeurs et vous êtes la bienvenue pour intervenir, bien évidemment. Catherine nous rejoint de la Drôme. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord de prendre mon appel. Et je voulais dire à mademoiselle qu'elle disait beaucoup de bêtises à mon avis. J'ai fait 30 ans d'université et j'ai orienté chaque année des étudiants. Il est bien évident que des étudiants ne peuvent pas réussir n'importe quoi. En revanche, je suis absolument certaine que chaque étudiant peut réussir quelque chose. Moi, je ne peux pas être Miss Beauté à 65 ans. Or, vous dites, laissons les étudiants choisir. Bien sûr que non. En fonction de leurs prérequis, des étudiants ne peuvent pas, ni statistiquement, ni intellectuellement, ni humainement réussir. En revanche, si vous leur donnez des stratégies alternatives, ce que j'ai fait toute ma vie, et qui nécessite une formation d'entreprise également, eh bien, vous menez des étudiants, quelles que soient leurs origines et quels que soient leurs prérequis, à des réussites professionnelles extraordinaires. Simplement, votre discours est complètement faux et l'entreprise n'est pas du tout, ni le marché du travail, n'est pris en compte. Je voulais vous dire que les étudiants s'inscrivent en psychosociaux, dont nous n'avons pas besoin. Ils s'inscrivent pour être prof de gym. Que voulez-vous qu'on en fasse? Alors qu'il y a des filières extraordinaires d'apprentissage qui vous assurent 90% d'insertion. Bon sang, il serait temps quand même que les conseillers d'orientation et vous, prétendument représentants des étudiants, connaissiez un petit peu les choses et travaillez le programme APEC, qui est quelque chose d'extraordinaire.
Alors voilà. Catherine, on ouvre le dialogue avec Lila Lebas qui va vous répondre.
Vous voulez, oui, tout à fait.
Lila Lebas, on vous écoute.
Oui, moi je connais la réalité des étudiants. On les aide au quotidien sur les campus universitaires quand ils ont besoin de se réorienter, quand ils ont besoin d'aide pour pouvoir justement continuer leurs études. Par contre, je ne pense pas que leur imposer une orientation, ça les fasse réussir puisque c'est aussi au quotidien que l'on voit ça. Quand on impose une orientation subie à un jeune, il échoue puisque étudier une filière quand on n'a pas envie de faire ça, c'est quand même compliqué de pouvoir y réussir. Et par contre, moi je suis d'accord, je pense que l'orientation, elle doit ouvrir le champ des possibles et permettre d'avoir une véritable visibilité sur toutes les formations qui existent dans l'enseignement supérieur, que ce soit à l'université ou dans l'enseignement supérieur public, pour faire ses choix en connaissance de cause et pas seulement avec ce que l'on sait auprès de chez nous, dans l'université à côté de chez nous.
Oui.
Et ça,
alors,
je pense que c'est le rôle des conseillers d'orientation.
Quand même chose. C'est l'incompétence des services d'orientation qui finalement, des salons de l'étudiant, j'en ai fait pendant 30 ans, qui donnent de l'information, les étudiants sont complètement déboussolés, sont complètement écrasés sous l'information, personne les aide à gérer leur projet professionnel. Or, il existe des logiciels, il existe des tests, il est de personnalité, il existe mille choses. Et le travail que fait le journal L'Étudiant, par exemple, est le seul travail efficace. C'est-à-dire qu'ils orientent, ils permettent de connaître les débouchés. Vous, vous avez été contre la sélection depuis des années et maintenant, vous êtes contre ce que fait le gouvernement. Au moins, il fait quelque chose parce qu'on a laissé une situation inepte perdurer. Et je peux vous dire que dans le trou paumé où je suis, eh bien, j'oriente encore des étudiants qui, alors qu'ils ont fait, par exemple, des filières techniques, vont demander 4 vœux en fac de droit. La fac de droit, vous avez 70 à 80% d'échecs en première année. Il ne faut pas les laisser aller, enfin. Moi, je ne laisserai pas mes enfants se perdre.
Bon, posons-nous la question de pourquoi ils échouent
n'importe où.
Voilà. Alors, Catherine, vous dites que vous appeliez d'un trou paumé, vous êtes de la Drôme, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Et Lila Lebas, je voulais vous demander, parce que vous faisiez partie des groupes de travail qui ont préparé un peu, est-ce qu'on a parlé, justement, de meilleure orientation, enfin, le rôle des conseillers d'orientation, par exemple ?
Ça a été un sujet que nous, notamment, on a beaucoup évoqué, puisqu'on pense qu'effectivement, il faut renforcer le rôle des conseillères et des conseillers d'orientation tout au long du lycée, avec un véritable service public sur tout le territoire, pour permettre un suivi quotidien, en tout cas régulier, des jeunes lycéens pour qu'ils puissent construire leur parcours. Mais juste, moi, je pense qu'il faut qu'on se pose la question sur pourquoi les jeunes échouent. Quand c'est 60% des jeunes qui échouent à l'université, c'est pas la responsabilité des étudiants, c'est parce qu'aujourd'hui, on leur donne pas les outils pour pouvoir réussir. C'est la majorité des jeunes qui échouent.
Voilà, on va se poser des questions tous ensemble. Absolument, 60% d'échecs en première année dans nos facs en France. Catherine est la bienvenue si elle veut prolonger le débat avec nous. C'est dans un instant, bien sûr, avec Sabine, avec Didier, les auditeurs qu'on va écouter au 3210 avec Lila Lebas, la présidente de l'UNEF, syndicat étudiant, qui nous accompagne. 3210, vos prises de parole, c'est dès maintenant. Le standard est accessible et vous allez cliquer quand vous le souhaitez sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, vous êtes les bienvenus.
Stéphane Carpentier,
Bénédicte Tassard.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Avant de prolonger un débat très animé sur nos universités avec les annonces du jour du gouvernement, je vous donne un rendez-vous, un appel à témoignage. Dès maintenant, vous composez le 3210. On va se pencher sur les pompes funèbres. C'est la Toussaint qui approche et c'est l'association Famille Rurale qui a pointé du doigt des abus des tarifs dans le secteur des pompes funèbres. C'est assez impressionnant. On passe du simple au triple pour une crémation et on multiplie par 5 pour une inhumation. Je voudrais avoir votre vécu par rapport à tout ça. La parole aussi donnée aux pompes funèbres. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous avez constaté des prix ahurissants vous lors de décès? Venez nous raconter concrètement au 3210-3210 et on vous écoutera très longuement tout à l'heure, c'est promis. 3210 pour le standard.
Et en attendant, on revient sur le plan étudiant du gouvernement avec toujours Lila Lebas, la présidente de l'UNEF. Et au 3210, il y a Sabine. Bonjour Sabine.
Bonjour à tous. Merci également de prendre mon appel.
Vous nous appelez de Rennes. Absolument. Et pour vous, il faudrait plancher davantage sur les débouchés de toutes ces filières.
Absolument. On se rend compte, moi la première pour mes enfants, mais en règle générale, et moi ça fait 30 ans que j'ai fait mes études, donc ça remonte un petit peu, qu'il y a encore des filières qui existent et pour lesquelles il y a soit peu de débouchés, soit en tout cas beaucoup de gens qui veulent aller faire ces filières-là, et en tout cas des débouchés qui sont tout à fait incertains. Donc moi je pense qu'il y a un problème effectivement à ce niveau-là, et laisser penser aux gens qu'ils peuvent s'inscrire dans des universités ou dans des formations qui ne sont d'ailleurs pas forcément des universités, mais des filières technologiques ou techniques, et qu'ils auront derrière du travail, est totalement illusoire pour un certain nombre d'entre elles. Je vais vous donner un exemple. Mmh. Ma fille a fait un bac pro, elle n'était pas très brillante dans ses études, mais bon, en tout cas elle a fait ce petit bac pro, gestion des milieux naturels et de la faune. Oui. Il n'y a pas de travail du tout là-dedans. Et il continue à prendre des élèves et à faire ce bac pro et derrière à les mener vers des BTS qui sont totalement sans aucun débouché.
Alors pour vous, il faudrait quoi? Il faudrait un numerus clausus comme pour les médecins? Qu'est-ce qu'il faudrait?
Il faudrait déjà s'intéresser effectivement au marché du travail et pas seulement rester dans la théorie des études. Donc c'est bien de faire des bacheliers et d'en faire plein, mais encore faudrait-il effectivement s'intéresser à ce qu'ils peuvent derrière attendre comme professionnalisation de leur filière choisie initialement. C'est bien de faire de la psycho, c'est bien de faire de la socio, c'est bien de faire de l'histoire. STAPS, on sait très bien, effectivement, comme l'a dit la personne qui m'a précédée, des profs de gym, on n'en embauche plus aujourd'hui. Donc, ils vont faire quoi, tous ces gens-là?
Lila Lebas, il y a des choix à faire, c'est ça?
Moi, je pense que déjà, les filières universitaires ne forment pas seulement à un métier. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Les licences qu'on fait à l'université permettent d'avoir tout un tas de compétences qui permettent de faire plusieurs métiers derrière. Un jeune aujourd'hui ne fait pas le même métier toute sa vie. Et donc avoir une formation de l'enseignement supérieur lui permet d'être polyvalent derrière sur le marché de l'emploi et pouvoir trouver différents travails. Et je le vois bien aujourd'hui, mais le diplôme, c'est la meilleure arme contre le chômage pour pouvoir trouver un emploi. Et donc je pense que l'enjeu, c'est de qualifier le maximum de jeunes au plus haut niveau de formation pour qu'ils puissent justement trouver un emploi, être formés, avoir des compétences et pouvoir derrière être polyvalents.
Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même donc fermer certaines filières?
Je regrette de vous dire malheureusement aujourd'hui, quand en France, quand vous avez fait des études et que vous avez un secteur d'activité, alors premièrement, les jeunes ne sont pas aussi mobiles qu'on le pense, ça c'est le premier point et je l'ai vu du fait des camarades de ma fille. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, malheureusement en France, quand vous avez adopté une voie de professionnalisation, vous ne pouvez plus en sortir. Les entreprises ne vous laissent pas sortir comme ça de votre voie de professionnalisation. C'est pas comme ça que ça se passe.
Sabine... Mais donc la question, c'est évidemment comment on améliore la formation tout au long de la vie, par exemple pour des jeunes qui ont fait des parcours très courts, puisqu'ils voulaient rentrer rapidement dans le marché de l'emploi, ce qui est tout à fait évidemment respectable, et comment derrière, quand ils veulent se réorienter, ils peuvent reprendre des formations beaucoup plus simplement, puisque effectivement, aujourd'hui, le sujet de réorientation, c'est un véritable parcours du combattant. Par contre, je ne pense pas qu'il faille avoir une théorie adéquationnisme entre les études et les emplois derrière, parce qu'encore une fois, une formation ne donne pas lieu à un seul métier, et qu'on ne peut pas prévoir des choses 5 ans, 7 ans, 8 ans à l'avance et imposer des orientations par rapport aux besoins du marché de l'emploi aux étudiants.
Sabine, à Rennes, vous restez bien avec nous. On va donner la parole à un jeune, justement, c'est Hugo, et prendre la direction de Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Hugo, soyez le bienvenu, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Bonjour Hugo.
Vous avez 18 ans, vous êtes étudiant en deuxième année d'histoire, c'est ça ?
C'est bien ça, oui.
Comment vous analysez-vous en tant qu'étudiant, vous êtes directement concerné, cette réforme ?
Et moi, je me questionne et je m'inquiète parce que, notamment, je suis concerné parce que j'ai fait quelque chose de... Enfin, j'ai un parcours assez particulier. J'ai fait un bac pro quand j'étais au lycée sur Aix-en-Provence dans la menuiserie. Puis après, avoir fait ce bac pro-là, je me suis quand même réorienté. On peut dire réorienté. Je suis allé en études d'histoire et pour l'instant, tout se passe bien parce que j'ai validé ma première année. Et je me dis que tous ces jeunes qui font ce choix-là comme moi, ils vont plus pouvoir le faire avec les réformes qui sont prévues. Et un autre point aussi, je me questionne par exemple pour mon petit frère, ma petite sœur et tous ces lycéens qui vont passer leur bac et qui vont... Globalement, leur avenir va être sacrifié, quoi, parce que globalement, là, on essaye des trucs, mais par contre, ça va pas être... je pense que c'est pas les bonnes choses, en tout cas, pour que tous les étudiants puissent réussir et que tout le monde puisse avoir le droit à la formation, quoi.
Ouais, est-ce qu'un bachelier en bac pro, au conseil de classe, est-ce qu'on va pas lui dire « Non, tu vas pas aller en histoire ». C'est ça, Lila Lebras, c'est ça aussi que vous...
C'est bien ça le risque, c'est ce que nous, on dénonce en disant « On va chercher beaucoup plus à décourager les jeunes lycéens plutôt qu'à leur ouvrir, encore une fois, et leur montrer toutes les possibilités qu'il y a comme poursuite d'études. Et on va figer l'avenir d'un jeune à 15, 16, 17, 18 ans en lui disant « Non, toi, tu ne pourras pas aller dans telle ou telle filière et réaliser ton projet d'études ». Et oui, il y a des bacheliers qui ont fait des parcours professionnels qui veulent ensuite raccrocher l'enseignement supérieur, des bacheliers qui veulent se réorienter, et je pense que le droit à l'erreur, c'est fondamental et qu'il faut permettre, garantir le libre accès dans l'ensemble des filières universitaires à tous les bacheliers.
Hugo, rapidement, vous avez le sentiment qu'on ferme des portes plutôt qu'en en ouvrir, là ?
Ah oui, c'est clairement ça. Enfin, de ce que j'ai pu voir, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Du coup, j'ai peur pour tous ces étudiants qui vont pas forcément avoir de continuité dans ce qu'ils veulent faire, quoi.
Mais vous savez ce que vous allez faire avec une licence d'histoire ? Est-ce que vous savez déjà ?
Je souhaite faire du journalisme après, donc finir ma licence d'histoire pour après aller en école de journalisme. J'espère que ça se passera plutôt bien. Pour l'instant, ça va.
On l'espère.
On l'espère pour vous, en tous les cas, Hugo. Merci d'avoir pris du temps pour nous au 3210 pour témoigner et raconter votre vécu en la matière. En tant qu'étudiant, Sabine reste là, bien sûr. On va accueillir Didier dans un instant, qui va prendre la parole. Et puis Marie-Claire aussi. De nombreux appels concernant ce débat sur l'avenir de nos universités. Ça se passe au 3210. Le standard dès maintenant, 3-2-1-0. Soyez les bienvenus.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
13h23 sur RTL. Les auditeurs ont la parole. On vous attend au 3210. Sur ce plan gouvernemental d'un milliard d'euros pour la fac et la fin du tirage au sort, après la fin aussi du système APB, admission post-bac, avec nous au 3210, Didier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Didier. Vous nous appelez
Bénédicte.
De Châteauroux ?
Oui, bonjour Bénédicte, bonjour Stéphane.
Bonjour Didier.
Oui, cette réforme démarrait bien. Il faut arrêter cette sélection. Il faut supprimer cette sélection par tirage au sort à l'université. Mmh. Le problème, c'est que ça se finit mal avec le cas où la personne veut absolument faire la filière pour laquelle on lui dit qu'il n'a pas suffisamment de qualité. Et dans ce cas-là, il pourra la faire quand même, et on parle d'une remise à niveau. Quelle usine à gaz, je veux dire, mais qu'est-ce que ça va donner cette remise à niveau ? Ça va être une remise à niveau informatique. Il est bien évident que la pauvre personne qui peine à suivre en seconde, puis terminale, puis première, c'est pas parce qu'on va lui refaire une remise à niveau. Enfin, j'ai le cas dans des amis ou dans de la famille d'une jeune fille qui a eu son bac au deuxième très, très, très difficilement au deuxième tour et qui veut rentrer en fac de médecine. Est-ce bien sérieux ?
Pour vous, il faut être plus restrictif.
Ah oui, il faut être plus restrictif, mais il faut arrêter d'être politiquement correct. Là, ça démarrait bien. Mais après, il faut dire que quelqu'un qui n'a pas son bac au premier tour, voire qui n'a pas mention bien ou assez bien, ne peut pas passer au moins en fac de médecine, ou alors dans des facs foutoirs où on va là-bas. Je ne suis pas du tout d'accord avec la présidente de
l'UNEF, Lila Lebas.
Oui, qui dit que de toute façon, quand on a fait 2 ans, on est polyvalent. C'est pas vrai en plus. On fait 2 ans pour rien. On ne sort pas du tout polyvalent.
Lila Lebas.
On ne sort pas polyvalent.
Votre réaction, excusez-nous, on va écouter donc la réaction de Lila Lebas à l'UNEF.
Non, moi je dis qu'il faut avoir un diplôme et permettre aux jeunes justement d'avoir le plus haut niveau de diplôme possible, d'être qualifié, parce que encore une fois, c'est la meilleure protection quand on arrive sur le marché de l'emploi pour trouver un boulot qui correspond à notre projet professionnel. Et moi je suis pas d'accord, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense pas qu'on puisse figer l'avenir d'un jeune à 16-17 ans en lui disant non, toi c'est sûr, tu n'auras aucune chance de réussir, et en plus de ça, je ne vais même pas t'aider à réussir dans la filière de ton choix pour réaliser ton avenir et ton projet professionnel. Et d'autant plus que quand on prend la question des jeunes qui n'auraient pas, encore une fois, les attendus pour entrer dans telle ou telle filière, on prend le sujet juste par le petit bout de la lorgnette, parce que c'est pas ça le cœur du problème aujourd'hui à l'université. C'est pas des problèmes d'orientation ou que sais-je. C'est, encore une fois, c'est 40 000 jeunes supplémentaires dus au boom démographique des années 2000 qui veulent tout naturellement poursuivre leurs études. Et c'est positif parce qu'on a besoin de jeunes qualifiés pour occuper des emplois. On va même en manquer si ça continue. Et donc on a plus de jeunes. Et donc je vois pas pourquoi on dirait à une génération qui est plus nombreuse, non, toi tu n'as pas les mêmes droits que les autres, tu ne peux pas faire les études de ton choix.
Didier, est-ce que c'est pas dur de dire à un jeune, tu n'es pas capable de faire cette filière, ce dont tu rêves ?
Allô ?
Oui.
Madame la présidente de l'UNEF récite une leçon, là. Elle a bien appris son petit texte. Elle, évidemment, elle n'a pas besoin de chercher du boulot. Après, quand elle aura fini d'être présidente de l'UNEF, elle rentrera dans un parti politique comme général pour les anciens secrétaires de l'UNEF. Mais derrière ça, il faut faire des études pour trouver du boulot. Quand elle dit qu'il n'y a aucune corrélation, on fait des études pas pour se plaire à avoir des études et avoir une licence. Il y a des licences, on sait très bien que les patrons n'adhèrent pas du tout à certaines licences. On manque de plombiers, on manque de couvreurs, on manque de tas de gens, et ces gens-là, eux, pourront se révéler dans une vraie vie. Il ne peut pas y avoir que des bacheliers, des informaticiens, des docteurs, enfin, ou des profs de vie, mais encore plus, j'étais entièrement d'accord avec la première personne qui est passée, qui a fait un résumé très simple de tout ce qui se passe. Oui.
Lila Lebas,
on peut être en désaccord et ne pas présager ce que fait l'un ou l'autre. Moi, je suis étudiante en Master 2 actuellement et je ne suis pas en train d'apprendre une leçon, je suis en train juste de vous parler de la réalité des étudiants, de ce qu'ils vivent au quotidien sur les campus universitaires et de comment, justement, l'UNEF leur vient en aide pour essayer de résoudre leurs problèmes d'orientation, par exemple, d'accès aux bourses pour pouvoir faire des études dans des bonnes conditions. Et donc, moi, je refuse, effectivement, qu'on trie les jeunes à l'entrée de l'université, parce que quand on trie, c'est toujours la même chose. Il y a un haut de la pile, un bas de la pile, et c'est toujours les plus précaires, ceux qui viennent de milieux sociaux les moins favorisés qui se retrouvent écartés de l'enseignement supérieur. Et donc moi, effectivement, je refuse qu'on augmente les inégalités sociales. Il faut permettre de remettre en marche l'ascenseur social et de permettre à chaque jeune d'être qualifié et de pouvoir réaliser son projet d'études.
Lila Lebas, vous restez avec nous. Dernier témoignage dans un instant de Marie-Claire qui nous passe un coup de fil de Belfort. On salue Didier, on lui souhaite une belle journée, bien évidemment. Débat qui se prolonge. Autre débat qu'on ouvrira tout à l'heure avec vous, chers auditeurs, au 3210. C'est sur les abus des tarifs dans le secteur des pompes funèbres à l'approche de la Toussaint. C'est une enquête de Famille Rurale avec des prix, des chiffres qui vont du simple au triple pour une crémation, qui sont multipliés par 5 pour une inhumation. Alors est-ce que vous avez constaté dans votre vécu de tels écarts, des arnaques aussi? Vous êtes les bienvenus, racontez-nous votre vécu, parole donnée aussi aux pompes funèbres, vous êtes les bienvenus. Ça se passe au 3210, à tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Vous avez la parole à 13h32 sur RTL, toujours avec nous Lila Lebas, la présidente de l'UNEF sur le plan étudiant du gouvernement. Et au 3210, on retrouve maintenant Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire.
Bonjour.
Vous nous appelez de Belfort.
Oui.
C'est ça. Et pour vous,
je vous appelle parce que je suis un petit peu... J'en ai un petit peu assez d'entendre ce tabou de la sélection, parce que la sélection, de toute façon, elle est là.
Vous êtes pour. Vous êtes pour ?
Je suis pour dans la mesure où je trouve qu'on fait un énorme mensonge aux jeunes de ce pays. Moi, je suis tuteur référent, c'est-à-dire que je suis, tout en travaillant, je suis des élèves d'école dans le médico-social. Donc ça peut être des éducateurs spécialisés, auxiliaires puériculteurs, moniteurs éducateurs, etc. Et je suis effarée quand je vois leur curriculum vitae. Parce que franchement, je me trouve avec des élèves d'école qui ont 26, 27, 30 ans. Et quand je vois qu'ils ont fait une année de psycho, ils ont raté l'année de psycho. Donc après, ils ont fait une année de langues appliquées. Après, ils ont fait... Il y en a qui ont fait 4-5 années d'université pour rien, pour rien. Et dire à n'importe quel élève, tu peux t'inscrire dans ce que tu veux à partir du moment où tu as ton bac, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave parce qu'on sait très bien qu'au départ, il y a quand même des capacités à avoir. Moi, je suis psychomotricienne. Là, pour l'instant, je suis deux jeunes en alternance qui font l'école de psychomotricité à Paris. Et ces deux jeunes sont rentrés à cette école sur concours. Et je trouve que finalement, au moins, ils sont sûrs de suivre leurs études et d'aller au bout de leur diplôme. La jeune femme qui est présidente de l'UNEF dit qu'effectivement, il faut un diplôme. Il faut un diplôme, mais il ne faut pas forcément un diplôme universitaire. Il y a plein de gens qui ont des diplômes, qui ne sont pas des diplômes universitaires, qui gagnent très bien leur vie, qui sont très heureux dans leur travail.
Lila Lebas.
Ah oui, moi je ne dis pas qu'il faut uniquement un diplôme universitaire, je dis par contre qu'il faut permettre aux jeunes d'avoir accès à des qualifications. Et moi, je n'ai rien contre les filières plus courtes, des filières plus spécialisées ou quoi que ce soit. Je pense juste par contre qu'il faut donner la possibilité aux jeunes de pouvoir réussir. Et jusqu'à preuve du contraire, des filières sélectives n'ont pas forcément un taux de réussite plus important que des filières qui ne le sont pas. Donc ce n'est pas ça qui fait la réussite, ce n'est pas la sélection qui fait la réussite des étudiants, c'est encore une fois les moyens qu'on y met pour pouvoir les faire réussir. Par exemple, le budget entre un étudiant en classe préparatoire ou un étudiant à l'université, ça passe du simple au double. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment permettre et mettre les moyens pour faire réussir une génération qui est plus nombreuse et qui veut se former. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de dire sans cesse aux jeunes qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne peuvent pas choisir, qu'ils ne seraient pas assez grands. Alors, ils sont majeurs légalement, par contre, pour faire leur choix d'études, par contre, pour être autonomes, à chaque fois, on leur dit qu'ils ne peuvent pas faire leur choix. Moi, je trouve que ça, c'est pas normal.
Marie-Claire, le mot de la fin pour vous.
Sois honnête. Faut un choix honnête. Je suis d'une famille d'enseignants. Vous savez très bien que des gens qui ont des difficultés en maths, en physique, chimie, tout le long de leur scolarité, ne seront pas médecins, ne seront pas biologistes, ne seront pas pharmaciens. Il faut quand même à un moment être honnête vis-à-vis des jeunes. Parce que on leur le choix. Alors moi j'entends sans arrêt la notion de j'ai le droit de... Oui, mais ils ont le droit de se planter aussi. Et ça, je trouve pas ça très sympa vis-à-vis des jeunes. Je pense que des professeurs, effectivement, seraient à même d'orienter les jeunes en fonction de leur choix, effectivement, mais aussi de leur capacité. Vous êtes en master 2 de je ne sais plus quoi, c'est que vous avez des capacités de suivre. Vous avez, depuis le début de vos études, vu certainement des gens qui ont été largués puis qui ont arrêté en cours de route parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais je ne parle pas de moyens financiers. Je vous dis simplement que on ment. Et que ça ne me plaît pas du tout. Moi, j'en ai assez de récupérer des jeunes, en plus qui sont écœurés, parce qu'on leur a laissé vivre leur rêve pendant 2 ans, 3 ans, et le rêve, il s'est écroulé. Et tout d'un coup, ils prennent... Ce qui est un peu ennuyeux, c'est justement, après, ils vont prendre des professions par défaut. Alors qu'il y a des professions très intéressantes, et quelquefois, c'est un petit peu dommage.
On a bien mesuré votre sentiment, Marie-Claire. Lila Lebas, vous voulez rajouter quelque chose ?
Je pense que effectivement aujourd'hui, on ne dit pas toute la vérité quand on ne permet pas aux bacheliers de réussir quand ils sont 500 dans un amphithéâtre en première année à l'université, 50 dans un TD, et du coup qu'il n'y a aucun cadre pédagogique pour pouvoir les faire réussir. Mais je pense du coup qu'il faut accentuer la formation tout au long de la vie pour permettre aux jeunes de se réorienter, d'avoir le droit à l'erreur, de construire leur parcours personnel, leur parcours d'orientation, leur projet professionnel, et le faire tout au long de la licence notamment. Nous, c'est ce qu'on a porté, et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, plutôt que d'imposer à des jeunes l'orientation et de leur refuser un droit à l'avenir, le droit à l'avenir qu'eux, ils veulent choisir.
Merci beaucoup, Lila Lebas, d'avoir participé à ce vaste débat qui était très riche et très intéressant, puisque, bien sûr, il y avait des avis divergents encore aujourd'hui dans RTL Midi. Présidente de l'UNIEF, notre invitée, et merci à tous les auditeurs qui ont composé le 3210-3210 pour participer justement à la discussion du jour.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Invité des auditeurs ont la parole, Camille Strozeski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Comitam. C'est un comparateur de services de pompes funèbres en ligne. Alors, ça existe depuis combien de temps,
Exactement.
Comitam? On ne savait pas que ça existait.
Et en fait, on ne sait pas encore assez que ça existe, même si on a accompagné plus de 150 000 personnes depuis 6 ans qu'on existe.
Ah, 6 ans. Alors, merci d'être avec nous pour parler de cette enquête de famille rurale. Révélée ce matin sur RTL, l'association pointe du doigt les abus des tarifs dans le secteur des pompes funèbres, l'écart de prix pour organiser des obsèques les moins chères possibles avec le même de vie, ben c'est énorme. Pour une inhumation, les prix varient de 862 euros à 4585 euros. Et pour la crémation, on passe de 1344 à 4141 euros. Alors, comment vous expliquez un tel écart?
Ce que pointe très bien du doigt l'étude de ce matin, c'est non seulement qu'il y a une différence de tarif, et puis c'est aussi qu'on n'y comprend rien. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'heureusement, on n'organise pas des obsèques tous les jours. On organise une, deux fois des obsèques. Et donc, quand on est confronté à ça, on ne comprend pas grand-chose aux devis. C'est pour ça que c'est essentiel de pouvoir non seulement avoir des devis, mais poser des questions aux conseillers funéraires et leur demander qu'est-ce qui est inclus dans ces devis, qu'est-ce que ça veut dire et la manière dont ça va se passer. Donc, très bonne étude qui montre qu'il y a des disparités de tarifs. C'est l'intérêt d'un comparateur, c'est de pouvoir évaluer les différences de prix d'un opérateur à l'autre, mais il y a aussi des différences de prestations. Donc, vraiment poser ces questions-là.
Mais un devis doit être conforme à la loi, c'est ça? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit comporter obligatoirement ce devis?
En fait, un devis de pompe funèbre, vous aurez le détail présenté toujours de la même manière de toutes les prestations qui sont possibles dans l'organisation d'obsèques, les porteurs, le maître de cérémonie, le corps billard, etc. On va vous dire si elles sont incluses ou pas, et on va vous dire également si ce sont des prestations qui sont obligatoires ou disons très courantes, ou si ce sont des prestations optionnelles. Par exemple, un maître de cérémonie, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui va vous aider pendant l'organisation des obsèques, mais qui n'est pas obligatoire. Et donc ça doit être stipulé dans le devis, tout simplement en étant mis dans une autre colonne.
Voilà, les écarts de prix sont considérables, évidemment. On va accueillir Eric, qui est conseiller funéraire de la capitale. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Ravi de vous accueillir. Je vous dis juste bonjour et à tout de suite. Vous allez détailler ce que vous avez envie de dire, bien sûr, au 3210 3210.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
On s'arrête tous ensemble sur cette association Famille Rurale et cette enquête dévoilée ce matin sur RTL qui pointe du doigt les abus des tarifs dans le secteur des pompes funèbres. Et Eric, donc, conseiller funéraire à Paris, nous rejoint. Eric, vous travaillez dans les pompes funèbres, donc, indépendantes dans la capitale. Est-ce qu'il y a des abus concrètement, est-ce que vous pouvez le dire, vous?
Il y a certainement des abus. Je pense que malheureusement, il y a des abus dans l'ensemble des métiers, et pas seulement dans la pompe funèbre. Après, je pense que quand on a envie de faire son métier avec cœur et avec respect des familles, parce qu'on touche quand même un sujet qui est extrêmement sensible, puisque c'est quand même le décès, c'est un moment particulièrement terrible pour les familles. Je crois qu'il faut avoir un petit peu de déontologie. Et qu'il y ait des différences de prix entre Paris et on va dire des grandes métropoles et la province. Je suis désolé, c'est pas du tout contre la province, mais ça me semble à peu près normal puisqu'on travaille pas dans les mêmes conditions, que ce soit le prix des locaux, le prix des transports, mais globalement qu'il y ait des écarts aussi énormes que ceux annoncés, c'est certainement une réalité, mais je trouve ça scandaleux. Voilà.
Camille Strozecki de Comitam, cofondateur de Comitam, comparateur de services de pompes funèbres en ligne. Il y a une vraie différence entre les grandes villes et la province, entre guillemets.
En fait, il y a des différences matérielles, tout simplement. Quand vous devez faire un convoi à Paris et que vous avez un risque d'avoir une heure et demie d'embouteillage quand vous allez au convoi, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en retard. Vous allez avoir, au lieu d'une demi-journée, presque trois quarts ou une journée, vous allez avoir quatre porteurs qui sont mobilisés, pour vous donner un exemple. Tout simplement, vous allez avoir un local qui coûte plus cher. Donc, c'est normal qu'il y ait des différences de tarifs. Mais ce dont parle ce matin l'association, c'est pas de ça. C'est vraiment des écarts qui sont plus importants. Donc je pense qu'on pourrait demander à Eric, à qui nous appelle, comment est-ce qu'il se comporte avec les familles. Mais la vraie question, c'est est-ce que le conseiller funéraire qui a reçu ses clients mystères leur a expliqué réellement ce qu'il y avait dans les devis? Moi, je peux vous assurer qu'ils annoncent un devis à 850 euros. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Le prix moyen d'obsèques en France, c'est 4000 euros. 850 euros, vous ne pouvez pas payer. Vous ne pouvez pas payer pendant une journée 4 personnes qui vont faire le portage, aller faire les démarches administratives, aller faire une fosse pour le cimetière. Pour vous donner une idée, rien que la concession à Paris, ça va coûter plus de 1000 euros. C'est pas possible.
C'est pas jouable.
Voilà. Vous, Eric, quand une famille vous dit c'est trop cher, ça vous le voyez souvent déjà sur leur tête, qu'ils ne s'attendent pas à ce prix-là ou pas?
Je vois déjà quelque chose chez certains de mes confrères. C'est ceux qui annoncent des obsèques, disons des crémations à 2000 euros à Paris. C'est impossible. Donc c'est mentir. Alors on peut très bien, moi je fais tout ce que je peux pour avoir les prix les moins chers. Mais quand on annonce des prix et qu'on a oublié par exemple le prix d'une concession, le prix d'un crématorium, etc. Ça je trouve ça scandaleux. Parce que les gens du coup se disent, ah mais une crémation ça coûte 2000 euros. Non, à Paris une crémation c'est pas possible que ça coûte 2000 euros. En revanche, effectivement, j'ai des familles qui me disent, c'est trop cher. Donc on détaille l'ensemble des postes, on essaie de regarder de façon extrêmement précise les endroits où éventuellement on peut baisser des prix, mais il faut quand même bien savoir qu'un tiers des prix qu'on annonce à des familles, ce sont des prix de toute façon ce qu'on appelle des tiers ou des débours. C'est-à-dire c'est des prix sur lesquels les pompes funèbres ne gagnent pas d'argent. D'accord. Si le Père Lachaise propose une crémation à un prix, quand je dis le Père Lachaise, c'est pas le Père Lachaise, ça peut être le crématorium de Nanterre ou un autre, si vous voulez, ce sont des prix sur lesquels une pompe funèbre ne gagne pas d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, quand une famille me dit c'est trop cher, je suis extrêmement transparent, je regarde les prix, je leur dis voilà ce que moi je vais gagner sur la cérémonie, sur les obsèques et sur le convoi.
Ouais, transparence de votre côté, Eric, on l'entend bien. Rapidement, on va accueillir Élodie qui nous appelle de Loire-Atlantique et qui est infirmière libérale. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Vous accompagnez des patients en fin de vie, donc vous êtes confronté justement aux pompes funèbres. Dites-nous ce que vous avez constaté, vous, rapidement, une nouvelle fois, Élodie.
Alors, un cas qui m'a vraiment un peu écœurée, c'est donc une dame qui était décédée le samedi soir. Et j'avais bien préparé le mari en disant que les pompes funèbres allaient leur proposer leurs services. Et la dame avait donc souhaité se faire incinérer. Et les pompes funèbres, malgré la réticence des gens, ont réussi à leur vendre des soins de conservation pour quelqu'un qui allait se faire incinérer. Ça, j'ai trouvé ça quand même très, très aberrant.
Camille Trozeski, c'est quelque chose qu'on retrouve ?
C'est quelque chose qu'on retrouve et je pense que c'est un conseil que vous donnez en transparence. De toute manière, il ne faut pas organiser des obsèques tout seul. On est vulnérable à ce moment-là et ce n'est pas que le fait que les conseillers funéraires vont vous abuser, c'est le fait que vous n'avez pas envie à ce moment-là de vous pencher dans les questions matérielles. Donc c'est important évidemment d'aller comparer, que ce soit avec Comitam ou d'aller physiquement comparer, mais pas uniquement de se faire accompagner, donc de lire les devis avec quelqu'un d'autre. La personne qui est moins concernée va vous poser la question à vous qui organisez les obsèques, mais c'est quoi les soins funéraires dans le devis ? Et vous pourrez demander à la pompe funèbre. Alors que si vous êtes tout seul, vous allez dire oui à tout parce que vous n'avez pas envie de vous en charger. Donc c'est vraiment important, faites-vous accompagner quoi qu'il arrive, allez-y à deux et si l'infirmière par exemple qui nous appelle peut aider les personnes qui sont confrontées à un décès, c'est vraiment un bon discours.
C'est super. Ouais.
On ferme le sujet, merci à Élodie et à Eric d'avoir pris quelques secondes pour nous, à Camille Strozecki, je vais y arriver, cofondateur de Comitam, comparateur de services de pompes funèbres en ligne, de nous avoir accompagnés évidemment et éclairés. On aura l'occasion d'en reparler, c'est certain, dans RTL Midi. 3210, vos appels, vous allez cliquer quand vous le souhaitez pour commenter l'actualité, c'est sur la page Facebook. RTL, les auditeurs ont la parole. Un peu de patience, c'est monsieur Laurent Gérard, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.